sur l'idée très largement admise d'une valeur sociale qui serait distincte de la valeur économique, même si elle reste difficile à définir avec précision. De quoi peut-on vraiment dire que cela améliore la vie des gens ? On en revient aux théories de la valeur. En économie, elles ont été utilisées pour justifier le prix des biens. Ainsi, le prix d'un pain pourra fluctuer en fonction des aléas de l'offre et de la demande, mais il gravitera toujours autour d'une espèce de moyenne qui est le prix naturel qu'un pain devrait avoir. À l'époque médiévale, déterminer le juste prix d'un bien était une question intrinsèquement morale. Lorsqu'un commerçant augmentait ses prix en temps de guerre, à partir de quel moment devait-on considérer qu'il allait au-delà de la prime de risque légitime et commençait à pratiquer des tarifs abusifs? Les juristes de ce temps recouraient souvent à une parabole. Si un prisonnier vivant de pain et d'eau promet de donner toutes ses richesses à un codétenu en échange d'un œuf dur, peut-on vraiment dire qu'il s'agit d'un choix librement consenti? Et un tel contrat doit-il rester valide quand les deux prisonniers recouvrent la liberté? Il arrive donc au marché de sous-évaluer ou surévaluer les choses, et on le sait depuis belle lurette. C'est même une idée qui relève du sens commun. Sinon, on n'entendrait jamais personne s'exclamer « Je me suis fait avoir sur ce coup-là » ou, à l'inverse, « C'est l'occasion du siècle ». Cependant, on n'a pas encore trouvé la formule qui permette de calculer avec précision ce que devrait être la valeur réelle d'un bien, et donc de dire à quel point exactement on s'est fait rouler ou on a fait une bonne affaire. Un trop grand nombre de facteurs entrent en ligne de compte, dont plusieurs, la valeur sentimentale, les goûts individuels, ceux du sous-groupe, sont absolument inquantifiables. C'est moins cela qui devrait nous surprendre que l'obstination de tant d'économistes, amateurs ou professionnels, à prétendre qu'un tel calcul est possible. Pour beaucoup, toutes ces autres formes de valeur ne seraient que des chimères, ou en tout cas n'affecteraient pas le marché. Les économistes soutiennent par exemple que le prix d'un bien va toujours finir par osciller autour de sa valeur de marché réelle, puisque la valeur n'est rien d'autre au bout du compte que l'utilité. Et l'aspect purement circulaire de ce raisonnement ne paraît pas les gêner le moins du monde. On trouve chez les marxistes et autres anticapitalistes des positions encore plus extrêmes, comme celle-ci. Le capitalisme étant un système total, quiconque pense agir en dehors de lui ou poursuivre des valeurs autres que celles qu'il crée, ne fait que se bercer d'illusions. Lorsque j'aborde le concept des jobs à la con dans des rassemblements de gauche radicale, il n'est pas rare qu'un membre de l'assistance versé dans la théorie marxiste se lève pour expliquer que j'ai tout faux. Il y a peut-être des gens convaincus que leur boulot ne sert à rien, mais celui-ci génère forcément des profits pour le système. Or, dans l'état actuel des choses, c'est tout ce qui compte. Les plus fervents défenseurs du libre marché ont exactement la même position. Parfois, d'autres auditeurs, encore plus au fait de ces infinies subtilités, interviennent. Tout cela se résumerait à la distinction que faisait Marx entre travail productif et non productif, sous-entendu productif ou non productif pour les capitalistes. Le travail productif est celui qui crée une plus-value, quelle qu'elle soit, que les capitalistes accapareront sous forme de profit. Tout le reste constitue au mieux un travail reproductif, celui qui, à l'image du travail ménager ou éducatif, exemple systématiquement cité, consiste dans les tâches de second ordre, permettant de maintenir en vie les travailleurs existants et d'en élever de nouvelles générations, bientôt capables de se charger du travail réel à leur tour, autrement dit, d'être exploités. Puisque la reproduction n'est autre que la production de la production, l'entretien des infrastructures et d'autres équipements utilisés par le système capitaliste entre aussi dans cette catégorie. De fait, c'est souvent ainsi que les capitalistes voient les choses. On sait que l'objectif des lobbies d'entreprise est de convaincre les gouvernements que l'école n'est que le lieu où se forme la future main-d'œuvre. Entendre le même raisonnement chez des détracteurs du capitalisme peut paraître étonnant, mais en un sens, c'est logique. Cela revient à dire, les demi-mesures, ça ne marche pas. un progressiste bien-pensant qui achète du café équitable et finance un char dans la Gay Pride de sa ville, ne conteste pas réellement les structures de pouvoir ni l'injustice dans le monde. Il ne fait que les reproduire à un niveau différent. C'est important de le souligner, car les progressistes bien-pensants ont tendance à être agaçants et méritent de s'entendre rappeler cette vérité. Mais le problème, à mes yeux, est ailleurs. C'est une chose d'affirmer que l'amour d'une mère ou le mal que se donne un professeur n'ont aucun sens dans la logique capitaliste, hormis comme moyen de reproduction de la force de travail. C'en est une autre de conclure que, par conséquent, tout point de vue différent sur la question est nécessairement hors sujet, trompeur ou erroné. Le capitalisme n'est pas un système unique et totalisant qui modèlerait notre existence dans tous ses aspects. Sans doute même cela ne rime-t-il à rien de parler du capitalisme comme d'un ensemble d'idées abstraites qui se seraient concrétisées, on ne sait trop comment, au sein des usines et des bureaux. Rappelons d'ailleurs que Marx n'en a jamais parlé ainsi. Le monde est beaucoup plus complexe et désordonné que cela. Historiquement, les usines et les bureaux sont apparus bien avant qu'on sache exactement comment les nommer, et à ce jour, ils sont régis par des principes et des objectifs aussi multiples que contradictoires. Quant à la valeur, elle est un sujet de débat politique permanent, et personne n'est tout à fait sûr de savoir ce qu'elle recouvre. Dans la langue anglaise moderne, on distingue généralement la valeur au singulier, la valeur de l'or, de la poitrine de porc, des meubles anciens, des produits financiers dérivés, et les valeurs au pluriel, les valeurs familiales, la moralité religieuse, les idéaux politiques, la beauté, la vérité, l'intégrité. En gros, on parle de valeurs dans le domaine économique, qui peut se résumer à toutes les entreprises humaines où les individus sont payés pour leur travail ou agissent en étant motivés principalement par l'argent, et de valeurs dans tous les autres cas. Les tâches ménagères et la prise en charge des enfants sont certainement, de loin, les formes les plus communes de travail non rémunéré. C'est pourquoi on entend constamment parler de l'importance des valeurs familiales. Mais participer à la vie d'une paroisse, donner de son temps à des œuvres caritatives, militer dans un parti politique ou s'engager dans des projets artistiques ou scientifiques, ce sont aussi des activités bénévoles. Même si un sculpteur devient fabuleusement riche et épouse une star du porno, ou qu'un gourou finisse sa vie en possession d'une flotte de Rolls-Royce, la plupart des gens jugeront leur fortune légitime, car elle n'est qu'une sorte d'effet collatéral. À l'origine, en tout cas, l'argent n'était pas leur motivation principale. L'élément nouveau qu'ajoute l'introduction de la monnaie, c'est la possibilité d'établir des comparaisons chiffrées. Avec la monnaie, on peut dire que telle quantité de fonte brute a une valeur équivalente à tel nombre de smoothies ou de séances de pédicure ou de tickets pour le festival de Glastonbury. Cela paraît peut-être couler de source, mais les implications sont énormes, à commencer par celle-ci. La valeur de marché d'un bien réside justement dans sa capacité à être comparée à, donc échangée contre, un autre bien. Or, c'est précisément ce qui fait défaut dans le domaine des valeurs. Certes, on peut soutenir qu'une œuvre d'art est plus belle qu'une autre, ou un religieux plus pieux qu'un autre. Mais il serait incongru de dire que tel moine est 5 fois plus pieux que son voisin, ou que ce Rembrandt est 2 fois plus beau que ce Monet. Et encore, plus absurde d'essayer d'inventer une formule mathématique qui permettrait de calculer à la décimale près combien il est légitime de négliger sa famille par amour de l'art, par exemple, ou de violer la loi au nom de la justice sociale. Bien sûr, nous faisons tous quotidiennement ce type d'arbitrage. Mais par définition, ce sont des décisions non quantifiables. À vrai dire, on pourrait aller jusqu'à affirmer que c'est là que réside toute leur valeur. De même que les biens de consommation ont une valeur économique, parce qu'ils peuvent être comparés à d'autres biens avec exactitude, les valeurs sont précieuses parce qu'elles ne peuvent être comparées à rien d'autre. C'est ce qui rend chacune d'elles unique et incommensurable, en un mot, inestimable. Cette distinction sémantique entre valeur au singulier et valeur au pluriel me semble être devenu pour le commun des mortels le moyen par excellence d'envisager toutes ces questions si complexes. Et c'est un moyen efficace. Cependant, il correspond surtout à une représentation idéale des choses. Car ce n'est pas comme s'il existait dans la vie réelle une sphère économie où les gens ne penseraient qu'à l'argent et à leur propre intérêt matériel, opposé à une série d'autres sphères, la politique, la religion, la famille, etc., où ils se comporteraient de manière diamétralement opposée. Les véritables motivations sont toujours mêlées, au point que, jusqu'à une époque récente, personne n'aurait songé à opérer de telles distinctions. L'idée d'un pur intérêt égoïste aurait paru aussi saugrenue que celle d'un pur altruisme désintéressé, tout comme l'idée de vendre son temps. Ce n'est qu'avec l'essor des marchés impersonnels d'un bout à l'autre de l'Eurasie, aux environs de 600 avant Jésus-Christ, que ces concepts ont pu commencer à être envisagés. L'invention des pièces de monnaie a permis la création de marchés où des individus qui ne se connaissaient pas pouvaient interagir en ayant pour seule ligne de mire leur avantage matériel. Toutes les régions du monde où ces marchés au comptant ont émergé, de la Chine à l'Inde, en passant par le bassin méditerranéen, ont vu naître, peu de temps après, des religions universalistes qui insistaient sur la futilité des biens terrestres, exhortant les fidèles à donner l'ensemble de leurs possessions aux œuvres de charité. Mais aucune tentative pour ériger une barrière étanche entre égoïsme matériel et idéalisme désintéressé, entre valeur au singulier et valeur au pluriel, n'a jamais été couronnée de succès. Il y a toujours des fuites qui, soulignons-le, vont dans les deux sens. Il n'est pas rare de découvrir que des artistes, des poètes, des prêtres ou des hommes d'État recherchent secrètement certains avantages pécuniaires, voire poursuivent des desseins encore moins avouables. Mais on voit souvent aussi des entrepreneurs mettre en avant leur honneur et leur intégrité, et des travailleurs se rendre malades à l'idée qu'ils n'apportent aucun bienfait au monde. À n'en pas douter, tous ceux qui m'ont écrit en s'interrogeant sur la signification profonde de leur job sont habités par ce type de réflexion. En général, lorsqu'ils parlent d'un boulot qui a du sens, ils veulent dire « qui rend service ». Et dans leur bouche, un boulot qui a de la valeur est synonyme de « bénéfique aux autres ». Ces considérations sur la valeur du travail prennent plusieurs formes. Un vendeur de voitures. Je travaille dans une grande compagnie américaine qui opère sur le marché des subprimes et propose des crédits pour l'achat de voitures d'occasion. Il m'arrive souvent de me demander si mon boulot a une quelconque valeur, je veux dire, à part pour les propriétaires de la boîte. Un ingénieur aérospatial. Les cadres sup sont ravis de travailler 50 à 60 heures par semaine pour montrer qu'ils sont occupés, et ils encouragent tous leurs subordonnés à en faire autant. Le problème, c'est qu'ils ne produisent aucune valeur. À la limite, on pourrait dire que leur job vaut quelque chose s'ils faisaient parfois émerger secondairement de nouveaux savoirs ou de nouvelles techniques. Mais dans ma boîte, ça tendait à être l'exception plutôt que la règle. Un télévendeur. Mon boulot n'a aucune espèce de valeur sociale. Au moins, quand vous remplissez les rayons dans une grande surface, vous rendez service aux gens. On a tous besoin des articles qu'on trouve dans les supermarchés. Quand vous travaillez dans un centre d'appel, votre apport se résume à emmerder le monde tout en lui faisant perdre son temps. Un traducteur universitaire freelance. Au fil des ans, j'ai traduit des travaux dans toutes les disciplines imaginables, de l'écologie au droit des affaires en passant par les sciences sociales et l'informatique. L'immense majorité d'entre eux n'a aucune valeur visible pour l'humanité. Un pharmacien. J'ai choisi le secteur médical en imaginant que mon job aurait du sens, que je servirais à quelque chose. En fait, j'ai réalisé que le monde de la médecine, pour l'essentiel, n'est qu'un château de cartes. On dit que les médecins sont fondamentalement utiles. Moi, je pense que c'est faux. Un fonctionnaire. J'ai occupé plusieurs jobs et pas un seul n'a aidé qui que ce soit d'aucune manière. J'ai noté que les fonctionnaires préfèrent parler d'aide plutôt que de valeur. Ils ne sont cependant pas les seuls. Rien de tout cela ne doit beaucoup surprendre le lecteur. Chacun d'entre nous, s'il était invité à réfléchir à cette question dans l'absolu, parlerait probablement de son job dans des termes similaires. Comme le disait le père d'Éric au chapitre 3, non sans avoir au préalable traité son fils d'indécrottable idiot pour renoncer à une si belle paye, en même temps, ce job, il ne fait de bien à personne. Le concept de valeur sociale d'un job, sa valeur pour la société dans son ensemble, auquel se réfère le télévendeur cité ci-dessus, apparaît dans d'autres récits. Le gérant d'un syndic de copropriété. Gérer une copropriété, c'est de la connerie à 100%. En gros, des riches achètent un immeuble avec une poignée d'autres riches qu'ils ne connaissent ni d'Ève ni d'Adam, puis ils embauchent une personne extérieure pour le gérer et l'entretenir. La seule raison pour laquelle ce job existe, c'est que les copropriétaires se détestent ou ne se font pas confiance. J'ai été dans ce boulot pendant 3 ans, et je n'y ai jamais vu une once de valeur sociale. Rappelez-vous aussi Nigel, le contrôleur de données. Il passait des centaines d'heures à scruter les bordereaux d'inscriptions de cartes de fidélité à la recherche d'erreurs inexistantes. Un contrôleur de données. Je crois vraiment que si les inscriptions avaient concerné un domaine dont la valeur sociale était plus évidente, je sais pas moi, les transplantations d'organes ou même les tickets d'entrée pour le festival de rock de Glastonbury, les choses auraient été différentes. Je trouve intéressant de juxtaposer ces deux témoignages, car ils montrent que pour la plupart d'entre nous, la valeur sociale réside au moins autant dans le fait de créer de la sociabilité que de créer des richesses ou même du divertissement. Avec le don d'organes, les gens sauvent des vies. Au festival de Glastonbury, ils pataugent ensemble dans la boue tout en fumant de la drogue et en jouant ou écoutant leur musique préférée, c'est-à-dire qu'ils se procurent mutuellement du bonheur et de la joie. De telles expériences collectives ont une valeur sociale évidente. À l'inverse, faciliter les stratégies d'évitement que mettent en œuvre les riches, car les gens très fortunés détestent presque toujours leurs voisins, c'est bien connu, cela ne présente pas une once de valeur sociale. Ces formes de valeur sociale sont évidemment impossibles à mesurer. D'ailleurs, si l'on s'entretenait individuellement avec les travailleurs que je viens de citer, on découvrirait sans doute qu'ils ont chacun leur propre conception de ce qui est utile ou précieux pour la société et de ce qui ne l'est pas. Je fais cependant le pari qu'ils s'accorderaient sur au moins 2 points. 1. L'essentiel de ce qu'on retire d'un emploi, c'est d'une part le salaire pour payer les factures et d'autre part la possibilité d'avoir un impact positif sur le monde. 2. Il existe une relation inversement proportionnelle entre le premier et la seconde. Autrement dit, plus votre boulot rend service et bénéficie aux autres, donc plus vous créez de valeur sociale, moins vous serez payé pour le faire.